Confiné, pas déprimé, émission du samedi 18 avril. Studio ZEF continue sa couverture exceptionnelle du confinement avec cette nouvelle émission. Pour démarrer, je tenais tout d'abord à rappeler les moyens de nous contacter pour participer à cette émission. De façon, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onresteensemble@studiozef.fr ou alors nous laisser un message sur la boîte vocale de la radio au 02 54 43 51 33. Ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer. Et pour la première émission de ce week-end, car oui, nous sommes en week-end malgré tout, une émission en deux parties. Nous entendrons tout à l'heure le secrétaire général de la FSU 41, un important syndicat enseignant, réagir aux annonces gouvernementales du début de semaine. Mais avant tout cela, et tout de suite d'ailleurs, j'ai le plaisir de vous proposer une nouvelle chronique Gloria avec Melior qui nous présentera la blues woman Coco Taylor. C'est parti!
Gloria.
Gloria.
Gloria. Gloria. Gloria.
Salut les confinés, et je l'espère pas déprimés. Pour vous, une petite rétrospective de Gloria, émission réalisée dans le cadre de la semaine Elle à Blois, qui vous présente depuis trois saisons un voyage musical exclusivement féminin. Alors voici une sélection de portraits d'artistes réalisés par les bénévoles de Studio ZEF. Vous pouvez bien sûr réécouter les épisodes de Gloria dans leur intégralité en podcast sur studiozef.fr. Bonne écoute!
Donc là, c'est Coco Taylor, donc née en 1928 près de Memphis. Elle, alors comme tout le monde, hein, on se répète un petit peu, mais elle chante au début dans des chorales religieuses et après, elle se met au blues et hop, elle monte à Chicago. Et là, rencontre avec Willie Dixon, le pilier de Chess Records. Enfin, le... Comment dire, j'ai un peu l'impression que Willie Dixon,
ah,
il
boss,
planait
hein,
au-dessus. C'est lui qui disait au frère Chess, tu fais rentrer celui-là, t'enregistres machin, tout ça. Et donc, elle, Coco Taylor, elle a de la chance parce qu'elle rencontre Willie Dixon en 62. Donc il lui obtient un contrat, elle chante Wong Dong Doodle, c'est pas le morceau qu'on va vous passer mais allez pianoter sur internet, il vaut franchement
Elle le chante avec Willie Dixon d'ailleurs.
Exactement, ouais, en duo. Et donc après la rencontre avec Willie Dixon, elle enregistre un morceau assez significatif qu'on va écouter dans quelques instants et c'est Love You Like a Woman. Et donc dans ce morceau, on se rend bien compte que c'est une chanteuse et une femme affirmée et combative aussi. Elle tient aussi à dire que maintenant dans le foyer, la femme elle a une place importante et dans les paroles de Love You Like a Woman, elle s'adresse à un homme et elle lui dit « Je veux que tu comprennes bien, je peux t'aimer comme une femme, mais je peux aussi te battre comme si j'étais un homme. » Est-ce que tu as bien entendu ce que je venais de te dire ?
Ouais, elle l'interpelle, voilà.
Exactement, elle interpelle...
Comme si elle interpellait son mari, quoi.
Exactement, donc bah allez, hein, Love You Like a Woman de Coco Taylor.
I always thought that a man should be boss in his home. But how can a king run his castle when he's always gone? Listen, I try to do the things for you that a woman should do. You take me for granted, baby. You must think I'm some kind of fool. But here's some food for thoughts, and I want you to understand. I can love you like a woman, but why so fight you like a man?
Tell the truth.
Hear what I say.
It's all right.
You rush out and think your time coming in, and just how I've always been. Straight to you to be understood. So I'm gonna tell you in plain English, just as plain as I can. I'm gonna love you like a woman, but oh, why so fight you like a man?
Tell the truth.
Hear what I say.
It's alright.
Very first thing you said.
True.
À bientôt pour un prochain épisode.
Bye bye, à la prochaine.
Merci encore à tous les bénévoles de Studio Zef qui font ou ont fait Gloria. Et merci à Véronique et Christophe de nous proposer cette rétrospective spéciale confinement. Pour retrouver les émissions en entier, les trois saisons de Gloria, vous pouvez aller sur le site de la radio studiozef.fr à la page de l'émission. On revient maintenant à l'actualité avec un entretien enregistré jeudi avec Stéphane Ricordo, secrétaire général de la FSU 41, avec qui j'ai échangé longuement sur les annonces de réouverture des classes à partir du 11 mai et sur le bilan de près d'un mois d'école à la maison. Bonjour Stéphane Ricordo.
Bonjour.
Donc vous êtes secrétaire départemental de la FSU dans le Loir-et-Cher.
Ah oui, absolument.
Et donc à ce titre-là, je voulais savoir un petit peu quelques petites choses, notamment par rapport à deux thématiques. À la fois les annonces présidentielles du début de semaine sur la réouverture des établissements scolaires, mais également faire un petit bilan avec vous de ce mois d'école à la maison. Alors d'abord, lundi, c'était lundi ou mardi d'ailleurs ?
C'était lundi soir.
Lundi soir, voilà. Le président de la République a annoncé une réouverture progressive des établissements scolaires à partir du 11 mai. La date est précise, mais la méthode est plutôt vague. Est-ce que depuis lundi, vous avez eu des précisions sur la méthode ?
En définitive, très peu. Alors, il est vrai que l'annonce présidentielle a beaucoup surpris, et peut-être même un petit peu en dessous de la réalité. Je pense qu'elle a même un peu stupéfait nombre de professionnels de l'éducation, mais pas que, vraisemblablement aussi créer des doutes, des questionnements, voire des peurs chez les parents d'élèves, et ça se comprend parfaitement, c'est partagé. On peut presque même se demander si cette annonce présidentielle avait été totalement partagé au sein du gouvernement, et nous évidemment on pense plus précisément à notre ministre. Et si je dis ça, c'est parce que depuis, en définitive, et ça fait maintenant peu de temps, puisque ça fait à peine 4 jours, on a assisté à un essai de définition du terme progressif, reprise, réouverture progressive, comme vous l'avez signalé, des écoles maternelles, élémentaires, collèges, lycées. Donc énormément de doutes, de questionnements. Je peux vous confier que il y en a pas un seul, pas une seule des questions qu'on se pose qui est réellement encore levée aujourd'hui. Alors peut-être parce que c'est un peu tôt, ça on veut bien l'entendre. On sait qu'il y a toute une période là qui va durer jusqu'au 30 avril de concertation au niveau national avec l'ensemble des partenaires. C'est pas trop tôt de s'apercevoir que la concertation peut servir à quelque chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et que l'on peut peut-être résumer d'une formule un peu abrupte aujourd'hui, mais qui, je pense, a tout son sens, la première chose, la première condition totalement indispensable pour espérer une reprise, et j'y reviendrai, le 11 mai, c'est la mise à disposition en nombre et en qualité de tout ce qui concerne la protection de l'ensemble des personnels. Et quand je dis l'ensemble des personnels qui travaillent au sein des écoles, je pense évidemment à mes collègues, qu'ils soient professeurs des écoles ou professeurs de lycée-collège, mais je pense aussi à l'ensemble des personnels territoriaux, je pense aux ATSEM dans les écoles maternelles, mais pas que, à tous les personnels départementaux et de la région aussi qui œuvrent dans les établissements scolaires. Et ça, je pense que le moins que l'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas garanti. Quand on voit quelles sont les difficultés de notre pays depuis plus d'un mois maintenant à réellement disposer de ces équipements à la fois de base mais aussi de qualité dans un contexte international où la guerre et la guerre commerciale et la guerre de l'approvisionnement fait rage. Voilà, c'est ce qui est pour nous l'élément premier. Aurons-nous à disposition à partir de cette date-là, si elle existe encore dans 3 semaines, ce qui reste à prouver, tout ce matériel de protection dont, je le rappelle quand même, les écoles n'ont pas bénéficié pendant très longtemps. Et là, je pense aux écoles qui ont servi de lieu d'accueil, et il fallait que ce soit ainsi, hein, avec beaucoup d'enseignants d'ailleurs volontaires, je le signale au passage, depuis le début du confinement. Ce n'est que très après le début de ce confinement, il a fallu attendre quasiment 3 semaines pour que les premiers masques et gel hydroalcoolique soient distribués dans les écoles de notre département, par exemple.
J'avais une petite réaction par rapport à ça, ou en tout cas une information à vous demander. Est-ce que vous savez, vous, le nombre d'enseignants qui ont été touchés par le Covid-19 sur le département ?
Oui, alors je ne suis pas en capacité de répondre de manière précise à cette question-là. Par contre, je peux vous dire qu'il y a eu 2 écoles de ce département, à ma connaissance, qui étaient des lieux d'accueil et qui ont été fermées avant que nous soyons en vacances, hein, entendons-nous bien, parce que plusieurs de mes collègues se sont révélés malades du coronavirus. Après, je n'ai pas de statistiques précises à l'échelle départementale tel que vous me le demandez, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu, au sein de la profession, oui, des personnels qui ont été infectés.
Vous pouvez donner le nom des écoles ou c'est pas possible ?
Oui, je peux. Si, je peux. Il s'agit de l'école de Prunier et de l'école élémentaire de Vineuil-les-Girards, qui ont été les Girards à Vineuil a été fermé une semaine avant les vacances. Je pense que Prunier l'a été un peu précédemment. On a aussi constaté durant cette période-là, alors je ne le dis pas sous forme de procès, mais je le dis parce que c'est une réalité, et là ça s'est produit dans bon nombre d'endroits, il s'est souvent passé du temps entre le début du confinement et donc le début de l'accueil des enfants de personnel soignant, qui n'ont pas été très nombreux, hein, mais de nombreux lieux d'accueil des écoles sont restés ouvertes dans cette période qui a précédé les vacances. Je parle de la question de la désinfection, du nettoyage régulier, très régulier, de ces écoles qui ont accueilli ces enfants-là. Dans un certain nombre de communes, on ne peut pas dire que les choses soient allées vite, on peut même dire qu'elles ont été très défaillantes. Voilà, ça fait partie des choses que l'on a vécues et qui nous rendent, alors encore une fois, je ne fais pas de procès aux collectivités territoriales, parce que c'est compliqué pour elles aussi et pour leur personnel, évidemment, mais tout ça montre bien à quel point les choses se sont faites avec difficulté, alors dans un état d'impréparation, que c'est pas le reproche premier, mais en tout cas avec des difficultés majeures d'obtenir des conditions à peu près sécurisantes. Ça a pris beaucoup de temps, et donc forcément qu'un certain nombre de personnels se sont trouvés exposés. Oui, bien sûr.
Alors, je voulais revenir sur la date du 11 mai. Est-ce que vous exprimez des craintes, vous particulièrement, sur cette réouverture des établissements scolaires ?
Oui, on en exprime même beaucoup, à vrai dire. Alors, bien sûr, on entend, ce n'est que dans un mois, un petit peu moins maintenant, l'évolution de la pandémie peut être favorable. Enfin, en même temps, pour tous ceux qui tiennent un petit peu au courant, on voit bien que le pays est extrêmement touché, et ça, c'est pas moi qui le dis, mais les points faits très très régulièrement, enfin tous les jours en fait, par les services de santé montrent bien, pour reprendre une expression employée par le professeur Salomon en l'occurrence, qu'on est sur un plateau extrêmement élevé, ce qui veut dire que l'épidémie est extrêmement active. Alors peut-être que dans un mois elle le sera beaucoup moins, peut-être, mais peut-être pas. Oui, les craintes sont majeures. Elles sont majeures de ce fait-là, pour commencer, de nos doutes, je le dis, de nos doutes profonds que tous les personnels qui vont être amenés à revenir en présentiel au travail, je parle des enseignants, mais je parle des personnels territoriaux aussi, la garantie n'est pas donnée qu'à ce moment-là, nous disposerons en nombre suffisant et en qualité suffisante de gel hydroalcoolique, de masques, et pourquoi pas aussi de gants, par exemple. Ce n'est pas prouvé, hein. On voit bien aussi, en se tenant un petit peu au courant, que les difficultés d'approvisionnement sont toujours réelles, même si le gouvernement dit que les commandes sont passées, il n'y a aucune raison de ne pas le croire. Mais en même temps, tant qu'on n'aura pas sous la main et à disposition, et encore une fois, en quantité suffisante pour pouvoir le renouveler régulièrement, tout ce matériel, tant que cette condition-là ne sera pas absolument certaine, oui, il est plus que normal d'éprouver des doutes et des inquiétudes et de regarder cette date du 11 mai avec beaucoup de circonspection. Et puis, vous le disiez précédemment, on nous parle de reprise progressive. Mais qu'est-ce qu'une rentrée progressive ? On nous dit qu'il faudra, et forcément, continuer à respecter tout un tas de consignes de sécurité qui semblent d'ailleurs porteuses de bénéfices. Hein. Je pense à la distanciation physique, je pense aux gestes barrières. Alors, les gestes barrières, on en revient à l'équipement et au matériel, mais la distanciation physique dans une école, enfin, pour tous ceux qui connaissent un petit peu une école, maternelle, élémentaire, mais collège aussi, notamment, distanciation physique, c'est rigoureusement impossible. Ou alors, on restreint de manière extrêmement importante le retour à l'école, on détermine des roulements, des catégories d'élèves, des effectifs par classe, mais quand on commence à poser ces questions-là, on voit bien qu'on rentre dans une dimension organisationnelle qui est absolument gigantesque, et on ne voit pas bien comment tout cela pourrait se faire de manière précise, en sécurité, parce que si la sécurité n'est pas reconnue, n'est pas appréciée de manière sinon totale, en tout cas très importante, à la fois par les enseignants, mais aussi par les parents d'élèves, c'est un certain brouillard quand même qui ne nous rassure pas du tout, quoi.
D'accord. Selon vous, oui. Pourquoi le gouvernement a décidé de rouvrir les établissements scolaires à cette date précise, ou même, on va dire, dans ce délai d'un mois et demi, voire de deux mois ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il me semble, enfin, c'est une opinion un peu plus personnelle, mais je crois que c'est relativement partagé, qu'après un bon mois de confinement, il était important que le président de la République puisse fixer un certain cap, un certain objectif. Ça, ça peut se comprendre assez facilement. Mais maintenant, très clairement, et les langues ont tendance un petit peu à se délier, là, quelques jours après, il s'agit d'une décision avant tout politique. Et non pas d'une décision guidée par des préconisations du monde médical qui soient précises, puisque les médecins eux-mêmes disent qu'ils se posent énormément de questions sur cette épidémie, sur l'évolution du virus. Donc c'est une décision politique qui consiste à faire redémarrer autant que possible l'activité économique, ce qui peut se comprendre parce que effectivement le pays est à l'arrêt, les dégâts risquent d'être gigantesques, terribles en termes d'emploi, et là on pense évidemment en priorité aux catégories de personnes, de salariés parmi les plus fragiles. C'est cette préoccupation là qui de toute évidence l'a emporté. Et puis parce qu'il y a quand même des choses qui interpellent. Depuis le début, ou presque, de cette épidémie, même si encore une fois le monde médical est prudent, et il a raison, on nous dit qu'a priori, les enfants, et ça a été la justification de la fermeture relativement rapide de tous les établissements scolaires il y a maintenant plus d'un mois, les enfants étaient a priori des propagateurs importants du virus. Ça fait maintenant deux jours que l'on entend, alors peut-être que c'est vrai, c'est possible, mais je n'en sais rien. Et a priori, je crois que pas grand monde en sait quelque chose. Mais ce qu'on en entend de manière assez répétée depuis 48 heures maintenant, les enfants ne seraient pas des vecteurs. Un, ils ne sont pas malades, et tant mieux. Mais deux, ils ne seraient pas non plus des vecteurs importants de ce virus. Difficile d'y voir clair, et un peu difficile aussi, sans douter de tout, de ne pas remarquer que le discours s'adapte au cap fixé.
Très bien, merci pour ce premier point déjà. Moi j'avais une deuxième question, ça fait donc plus d'un mois qu'on est confiné, et donc ça fait plus d'un mois que les enfants font l'école à la maison. Quel bilan de ce que le ministère appelle la continuité pédagogique, quel bilan vous faites, vous, du point de vue des enseignants déjà?
Alors, pour essayer d'être objectif là-dessus, il faut faire un petit peu de chronologie. Dès le début du confinement, le ministère de l'Éducation nationale a mis une pression infernale, folle, sur l'ensemble des enseignants, mais en même temps des familles et puis des élèves, évidemment, en parlant de cette continuité pédagogique. Et j'y vais un peu à la hache, mais on en était quand même extrêmement près, laissant entendre que l'école se continuerait, les apprentissages se poursuivraient de la même manière que lorsque tous les élèves étaient dans les classes, les écoles et les établissements. Cette pression, elle a fini par un petit peu retomber, et si elle est un tout petit peu retombée, c'est parce que très très vite, et mon organisation syndicale en fait partie au premier rang, a crié au fou. Non, l'école à la maison, ça ne peut pas être la même chose que l'école dans les écoles et dans les établissements. Parler de continuité pédagogique a été dès le début un véritable abus de langage, un leurre total. Il a fallu plus de trois semaines, presque un mois, pour qu'enfin le ministre finisse par reconnaître que continuer les programmes, raisonner en termes d'apprentissage nouveau quand on n'est pas en présence de son professeur des écoles ou de son professeur de lycée-collège, c'était rigoureusement impossible. Mais quand même, le temps a été long et les difficultés majeures ont été rencontrées. Alors, c'est le cas, même si je ne devrais pas forcément en parler en premier, mais je vais quand même le faire, pour les enseignants qui se sont échinés à essayer de faire pareil, mais ça demande forcément beaucoup plus quand on est à distance. Ça a créé des tensions, des difficultés énormes dans bon nombre de familles qui ont fait comme ils pouvaient, qui ont essayé de faire au mieux, mais qui ont fini par ne plus pouvoir supporter le rythme de travail. Et puis, il est enfin apparu, mais ça a pris du temps, ce que l'on a dit depuis le début, un creusement supplémentaire des inégalités sociales à travers cette situation. Et là, je parle, bien sûr, de cette partie de nos élèves qui n'ont pas chez eux le matériel informatique indispensable pour pouvoir espérer garder le contact avec l'école, mais je parle aussi des familles, elles sont nombreuses, et c'est ainsi qui suivant, selon l'âge de leurs enfants et donc de nos élèves, ne peuvent pas se comporter comme des enseignants à la maison. C'est tout simplement impossible. Alors ça s'est un peu calmé, heureusement, mais du temps il en a fallu pour qu'enfin le ministre reconnaisse qu'il fallait mettre un petit peu la pédale douce et plutôt parler d'une continuité scolaire, ne pas perdre le contact complètement avec l'école, plutôt que de parler de continuité pédagogique. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, on l'a trouvée à travers les décisions de bon aloi qu'a dû prendre le ministre de l'Éducation nationale, notamment autour des classes de première et de terminale. Là, je parle du baccalauréat, mais aussi pour le collège, à travers le diplôme national du brevet. Mesures qui ont permis d'apporter un petit peu de sérénité, de bon sens, de calme dans une véritable tempête qui a duré très longtemps durant ces premières semaines de confinement. Et d'ailleurs, mais ça nous fait un petit peu hurler, je ne vous le cache pas, une des raisons évoquée à la fois par le président de la République, mais aussi par le ministre de l'Éducation nationale. Alors, vous allez me dire, c'est normal que l'un ne dise pas tout à fait le contraire de l'autre. Ça arrive. Pour justifier de cette réouverture des écoles, a été de dire qu'il fallait justement éviter que ces inégalités scolaires, à travers les inégalités sociales, se creusent un petit peu plus. Oui, d'accord, entendu. Mais ça ne peut pas, encore une fois, justifier cette date du 11 mai. Cette date du 11 mai, elle est avant tout justifiée par la nécessité de remettre au travail un maximum de salariés de ce pays.
D'accord. Je vous remercie. Une dernière question. Qu'est-ce que l'AFSU porte comme revendication pour les semaines qui viennent là?
L'AFSU, elle porte les mêmes revendications qu'elle portait avant. Et elles sont relativement simples. Quand le président de la République rend des hommages très appuyés et mérités au service public de santé, à l'ensemble des personnels de santé, quand il, même si c'est venu après, quand il rend aussi un hommage appuyé à l'ensemble des fonctionnaires dont font partie les enseignants, la FSU, elle ne fait que demander ce qu'elle demande depuis extrêmement longtemps, c'est-à-dire que plutôt que de démanteler les services publics dans ce pays, on leur apporte les moyens dont ils doivent absolument disposer. Et je pense en premier lieu, évidemment, à la santé, mais je pense aussi à l'éducation nationale. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que pour le premier degré, pour les écoles, la période qui vient de s'écouler, elle a changé la donne, y compris en termes budgétaires. On parle de carte scolaire dans le premier degré. Toutes les fermetures qui étaient prévues dans le projet initial de Madame l'inspectrice d'académie, toutes ces fermetures ont été annulées. On s'en réjouit puisqu'on a eu une rallonge budgétaire. Donc les services publics doivent être développés plutôt qu'être sans cesse année après année. Et le président de la République en est un bel exemple, démantelé. Ça vaut aussi, mais je reviens toujours à la fonction publique, par cette demande d'abrogation d'une loi, alors qui est peut-être passée un peu par-dessus la tête de beaucoup de monde, ça peut se comprendre facilement, dite de rénovation de la fonction publique, qui est un véritable scandale et qui coupe quasiment toute capacité de dialogue social, de démocratie sociale, alors qu'encore une fois, la période montre à quel point la nation a besoin, pour reprendre un terme que le président de la République a cité à de multiples reprises dans sa dernière intervention, a besoin de participation de tous et de solidarité. On lui dit chiche, on lui dit chiche. Et puis, le jour d'après, il devrait être très très différent des jours d'avant sur le plan du soin apporté à notre planète, sur le plan écologique, sur le plan des investissements, sur le plan d'une meilleure répartition des richesses. On peut parler de ce qui nous a beaucoup occupés pendant des mois précédemment. Je parle de la réforme des retraites. Elle est mise de côté. Pour l'instant, elle n'est pas totalement abandonnée. Elle est mise de côté. Ça vous a pas échappé non plus que tout ce qui se développait autour de la vente au privé d'aéroports de Paris, les conditions sont plus réunies. Ben non, elles sont plus réunies. Évidemment qu'elles ne le sont plus. Voilà. Cette période apporte beaucoup d'espoir, je le dis, mais elle apporte aussi beaucoup de crainte, parce que ce qui peut se passer après, peut être pire que ce qui se passait avant. Mais ce qui peut se passer après peut être d'une toute autre nature. Pour ce qui concerne la FSU, vous avez compris où vont nos préférences, nos souhaits, et où ira, parce que c'est ça aussi qui est extrêmement important, et je pense qu'on ne sera pas les seuls, mais où ira notre action s'il faut qu'elle soit déterminée dans le sens, encore une fois, d'une société, pardon, beaucoup plus juste, sociale, solidaire et écologique.
Merci.
Mais je vous en prie.
Donc merci Stéphane Ricordeau de la FSU 41. Je vous souhaite une bonne continuation.
Merci à vous aussi, et à bientôt peut-être.
À bientôt peut-être. Au revoir.
Au revoir.
Confiné, pas déprimé, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec de nouvelles informations d'utilité publique. Avant de se quitter, je tenais à vous rappeler que cette émission ainsi que toutes les précédentes sont disponibles sur le site de la radio studiosf.fr à la page de l'émission On reste ensemble. Autre élément indispensable à toute bonne émission confinée pas déprimée, le rappel des contacts. Le mail tout d'abord, onresteensemble@studiosf.fr si vous voulez nous envoyer des informations écrites, ou alors un message vocal au 02 54 43 51 33. On se fera un plaisir de diffuser ce que vous avez à dire à l'antenne. Et on se quitte en musique avec un morceau que j'ai trouvé un petit peu par hasard, mais qui m'a légèrement bousculé par son second degré, point d'interrogation. Tout de suite, c'est Charles Baptiste avec le morceau Bled. À demain.
Je viens à la ville d'un patelin sous les écobuages. Où sont les hirondelles, les granges et la chapelle derrière la buée. Moitié, moitié. Je me sens moitié-moitié. Quand les ronds-points étaient les prés, c'est en région que tout se passe. Ici l'air n'a pas changé, mais on y est inquiet. Le sujet central c'est la météo. Les gens sont jamais là quand il fait beau. Sors le tuyau d'arrosage s'il fait chaud, mais nous nostalgie. Si t'aimes ma France Info, je viens d'un village, d'un patelin sous les écobuages. Où sont les hirondelles, les granges et la chapelle derrière la buée. Moitié, moitié. Je me sens moitié, moitié. Les voisins sont partis sur une Corée. Chez nous on roule toujours qu'en Citroën. Le cousin de Vancouver, on lui manque mais il vient jamais. Le député sénateur, ça fait 30 ans qu'il est là. Comme les Ginkgo Biloba. C'est beau les Ginkgo Biloba. Les Portugais, c'est pas les Espagnols, répètent les enfants dans les cours d'école. Des brebis dans la vallée, égarées, égarées. Je viens d'un village, d'un patelin, sous les écobuages. Ranger la chapelle derrière la buée. Et dans tous les villages, y'a un dio-dio. Et dans tous les villages, y'a un dio-dio. Et dans tous les villages, y'a un dio-dio. C'est qui le dio-dio?